Composé en 1931, créé en 1936, l'opéra Édipe de Georges Enesco, dont l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a réalisé le premier enregistrement mondial chez EMI en 1989 avec le fabuleux José Van Damme et sous la direction de Laurence Foster, qui était donc devenu en 1980 directeur musical de cet orchestre à une période clé de son histoire. Ça faisait longtemps qu'un chef n'était pas resté aussi longtemps. La décennie de Larry Foster à Monte-Carlo, il était tout juste quadragénaire à son arrivée, est fructueuse. Il donne à l'orchestre une visibilité qu'il avait un peu perdue les années précédentes, y compris au disque, ça vous venez de l'entendre. Il emmène même l'orchestre à Paris pour une fastueuse Carmen à Bercy. C'était la mode à l'époque de populariser l'opéra dans les palais des sports, malheureusement dans des sonorisations très discutables. Et puis Foster est chez lui dans la musique américaine. Un Américain à Paris de Gershwin, Laurence Foster dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le nouveau nom de l'orchestre entérine une évolution constatée depuis un moment. Il s'agit désormais d'un orchestre symphonique jouant de l'opéra plus que d'un orchestre d'opéra qui joue du symphonique. Mais le lien organique est maintenu avec la salle Garnier. L'orchestre, en fait, est mis gratuitement à disposition de l'opéra pour jouer dans la fosse. D'ailleurs, contrairement à ses prédécesseurs, Larry Foster aime bien descendre dans la fosse. Il dirige par exemple Othello, chanté par Placido Domingo en 1980. Il y a aussi de beaux enregistrements d'opéra avec Armin Jordan. Dans ces années 80, voici un nouveau premier violon solo, un Américain qui restera 20 ans. C'est Ronald Patterson, un élève de Yasha Heifetz, que je revois encore avec sa belle moustache et qui sera premier violon des années Foster. Avec au violoncelle solo son compatriote Lane Anderson, écoutons-les tous les deux avec leur collègue Jean-Pierre Pigère, alto solo, dans ce très bel adagio pour trio et orchestre à cordes de Guillaume Lequeux. Armin Jordan dirige l'adagio de Guillaume Lequeux avec trois premiers pupitres des cordes du Philharmonique de Monte Carlo, Ronald Patterson, Jean-Pierre Pigère, Lane Anderson, représentatif de l'époque Foster dans ses années 80. Il y en a un autre qui sera resté plusieurs décennies, une figure de proue de l'orchestre, c'est Marius Mokanu, arrivé en principauté à la même époque, après avoir profité d'une victoire dans un concours de quatuor en Allemagne pour quitter la Roumanie de Ceausescu et se faire engager à Monaco comme chef d'attaque des seconds violons. Pourtant, le jury ne l'avait pas retenu à sa première audition. Larry Foster avait trouvé son Mendelssohn trop lent, à quoi Marius, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, avait eu le culot de répondre « trop lent par rapport à quoi ?» Et son aplomb avait séduit le jury qui lui avait donné une seconde chance. Marius Mokanu, un musicien d'orchestre passionné, chaleureux, extraverti, mais aussi un sacré râleur. Je crois que je pourrais faire une émission entière avec toutes les fois où il a dit leurs quatre vérités à des chefs qu'il estimait incompétents. Et puis, les années Foster, ce sont aussi des bois de qualité. Claude Grenier à la flûte, Daniel Favre à la clarinette, Jacques Petit au basson, bientôt rejoint par un hautbois solo de grande classe, Jean-Paul Barrellon. On en prend trois, Barrellon, Favre, Petit, c'est le trio d'Anche d'Alexandre Tansman. Jean-Paul Barrellon, hautbois, Daniel Favre, clarinette, Jacques Petit, basson, dans le scherzino de la suite pour Trio d'Anche d'Alexandre Tansman. Les années 80 voient aussi arriver à Monaco de nouvelles têtes, dont certaines sont toujours là au moment où je vous parle, comme le trompettiste Mathias Persson ou la flûtiste Anne Moog. C'est aussi l'époque où la princesse Grace prend la décision de transformer le festival d'hiver, devenu obsolète, en Printemps des Arts, qui existe toujours. Il est inauguré en 1984, manifestation extrêmement variée où l'OPMC, comme on l'appelle maintenant, a sa place dans des répertoires qu'il pratique peu par ailleurs, comme la musique contemporaine. Foster quitte Le Rocher en 1990 et après un intérim assuré par Gianluigi Gelmetti, c'est à nouveau un Américain qui lui succède, James DePriest, chef noir américain paralysé des deux jambes à la suite de la polio, contracté à l'âge de 25 ans, très fin musicien, mais sa santé fragile l'empêche de rester très longtemps. Il fait des recrutements, lui aussi, par exemple un nouveau timbalier, Julien Bourgeois, pour succéder à Pierre Naudin. Et parmi les enregistrements qui existent avec James DePriest, cette deuxième symphonie de Vincent d'Indy. Le troisième mouvement de la deuxième symphonie de Vincent d'Indy pour témoigner du passage de James de Priest à la tête de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo qui aborde les années 2000 comme une croisée des chemins. Le long mandat de Foster a été très populaire mais a laissé place à une certaine routine qui appelle une reprise en main. L'homme de la situation s'appelle Marek Janowski. Il a alors 60 ans, il est connu pour son talent de formateur d'orchestre, inflexible dans le travail, efficace dans les résultats, qui ne se font pas attendre. Et bientôt, il emmène l'orchestre jouer à Paris des répertoires où il n'est pas forcément attendu, comme la musique germanique. Écoutez ce Schubert donné au Théâtre des Champs-Élysées le 28 janvier 2003. L'Orchestre philharmonique de Monte Carlo au Théâtre des Champs-Élysées, c'était l'entracte de Rosamonde de Schubert. Marek Janowski est aussi un directeur musical très engagé dans le développement de son orchestre. Et ça passe par une amélioration des conditions de jeu. Janowski n'est pas très satisfait de l'auditorium Régnier III, très bas de plafond et dont la taille ne permet pas d'aborder tous les répertoires. Il milite pour une salle de concert plus vaste et plus moderne. Ce sera le Grimaldi Forum en 2000, où il pourra donner des œuvres colossales comme la deuxième de Mahler, les Gurelieder de Schoenberg ou ce Parsifal de Wagner, où Janowski est plus que jamais dans son élément. We'll be right back. C'est le 3 décembre 2006 que Marek Janowski a fait de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo un orchestre wagnérien avec ce Parsifal au Grimaldi Forum. Lorsque Janowski quitte le Rocher en 2006, le niveau de l'orchestre a nettement monté, tant sur le plan de la sonorité, vous l'avez entendu, plus large, plus dense, que sur le plan de la cohésion. En plus, il a obtenu la rallonge budgétaire pour doubler les postes de solistes. Et voilà l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo mûr pour jouer un compositeur que cet orchestre de culture très française, qui joue toujours le basson français et non le fagot allemand, avait très peu pratiqué jusque-là, Anton Bruckner. Marek Janowski, le final de la 8e de Bruckner représente la quintessence du contrepoint et donc de la musique allemande. Il l'a programmé lorsqu'il a estimé que son travail pour forger le son du Philharmonique de Monte-Carlo était suffisamment avancé. Il l'a même dirigé à Paris, mais à l'instant, on était au Grimaldi Forum le 26 octobre 2003. Et puisque je parle de ce qu'a apporté Janowski à l'OPMC, il faudrait aussi insister sur les recrutements au tournant des années 2000 avec l'arrivée de personnalités emblématiques, à commencer par le nouveau premier violon solo, super soliste, David Lefebvre, souvent présenté comme canadien. De fait, il est né et a grandi au Québec, mais de parents français, arrivés depuis peu. Et c'est grâce à un prix du Conseil national des arts du Canada qu'il a pu se perfectionner au Conservatoire de Paris et remporter le concours de Douai devant un certain Renaud Capuçon. Puis Michel Plasson a fait de lui le premier violon du Capitole de Toulouse à 23 ans, jusqu'à son arrivée en Principauté, où il est un violon solo très présent et engagé. On va le retrouver ici avec 7 collègues premiers pupitres des cordes dans l'Octuor de Georges Enesco, un arrangement pour octuor et orchestre à cordes. ¶¶ David Lefebvre, Marius Mokanu, Irina Simon-Rennes et Peter Such, violon, François Méraud et Cyril Mercier, alto, Stanimir Todorov et Thierry Amadi, violoncelle. Ce sont les premiers pupitres de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui jouait Enesco. Mais je vous ai dit que Marek Janowski avait doublé les postes de soliste. Il y a donc la place pour deux violons solos. David Lefebvre arrive en 99. Un an plus tard, voici l'excellente Lisa Kerob, très complémentaire, une élève de Gérard Poulet qui s'est perfectionnée à New York et Philadelphie. Elle se passionne pour la musique de chambre, en particulier au sein du trio Goldberg qu'elle a fondé avec son collègue, l'excellent violoncelle solo Thierry Amadi. L'altiste est aujourd'hui Federico Hood. On les écoute dans le trio que Gideon Klein a achevé en octobre 1944 au camp de Theresienstadt, 9 jours avant sa déportation à Auschwitz et 3 mois avant son extermination à 25 ans. Lisa Kerob, Federico Hood et Thierry Amadi dans le premier mouvement du trio à cordes de Gideon Klein. Marek Janowski ne sera resté à Monaco que 5 saisons, mais le temps ne fait rien à l'affaire. Il aura réalisé beaucoup plus que d'autres en 20 ans. En quittant ses fonctions, Janowski déclare qu'il faudra une pointure pour lui succéder et faire fructifier l'héritage. C'est ce qui se passe avec le recrutement de Yakov Kreitzberg, alors âgé de 48 ans, russe, naturalisé américain, élève d'Ilya Moussine à Leningrad, frère de Semyon Bychkov. Il est décidé à placer la barre très haut. Et dès la première saison, ses interprétations des grands ballets russes marquent tellement les esprits que l'on décide de fonder un label discographique de l'Orchestre Philharmonique pour faire des disques. Parmi les premières parutions, cette Scheherazade de Rimsky-Korsakov avec le magnifique David Lefebvre au violon solo.
Thank you.
Cette Scheherazade de 2010 pour témoigner du grand style et de l'exigence de Yakov Kreitzberg à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Un jour en interview, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, alors je vous le cite. « Mon but, que mon orchestre soit non pas le meilleur, mais le meilleur qu'il puisse être. Les classements ne veulent rien dire. » Quand je dirige un concert où mon orchestre atteint le meilleur niveau qu'il soit capable d'atteindre à ce moment-là, il est pour moi le meilleur du monde. Et cela me bouleverse. Marek Janowski était très germanique dans son esthétique. Yakov Kreitzberg apporte une sonorité plus tranchante et une intensité qui profite à la musique de Mahler, de Stravinsky et de Shostakovich, où il transforme l'orchestre en une vraie machine de guerre. Thank you. L'interprétation tétanisante de la 11e de Chostakovitch par Yakov Kreitzberg. Au bout d'un an, à Monaco, Kreitzberg doit s'absenter plusieurs mois, gravement malade. À son retour, il est transfiguré. Sans renoncer à sa discipline de fer, il est plus souple, plus ouvert. On sent une force intérieure jusque dans son regard rayonnant. Et ce qui se passe entre lui et l'orchestre relève de l'expérience humaine autant que musicale. À chaque concert, la salle est debout et les musiciens au bord des larmes. Sa mort à 51 ans le 15 mars 2011 laisse tout le monde désemparé. Il avait donné son dernier concert le 6 février, la 7e symphonie de Bruckner. Merci à Frédéric Vito pour ce document inestimable. La grande salle de l'auditorium de Monte Carlo porte maintenant le nom de Yakov Kreitzberg. 5 semaines avant sa mort, cet adagio de la 7e de Bruckner restera une forme d'adieu. On ne reste pas sur les mêmes sommets avec le choix de Gianluigi Gelmetti pour lui succéder de 2013 à 2016. Disons que c'est une transition. Il connaît l'orchestre pour avoir déjà assuré l'intérim après Laurence Foster et il réside à Monaco. Et puis, on lui doit tout de même un enregistrement original qui rend hommage à l'un des monégasques les plus célèbres, c'est Léo Ferré, dont il faut savoir que, bien sûr, il a été acclamé pour ses chansons, mais son rêve était d'être un musicien classique. On lui doit même une symphonie. Thank you. Qui peut bien être ce compositeur, vous dites-vous, si vous prenez l'écoute en cours de route? Eh bien, c'est Léo Ferré, le plus célèbre des monégasques de naissance, et c'était l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Gianluigi Gelmetti. Et j'en arrive à la fin de mon parcours, retraçant à grands traits, bien sûr, l'histoire de cet orchestre, avec l'arrivée en 2016 du japonais Kazuki Yamada, disciple de Seiji Ozawa, comme directeur musical, un chef spectaculaire et qui aime beaucoup la musique française, bientôt rejoint par Didier de Cotigny comme délégué artistique, synonyme de retour à une ambition internationale. Et comme j'ai beaucoup parlé des cordes, je voudrais pour finir rendre justice au vent en écoutant les excellents souffleurs de l'OPMC d'aujourd'hui. C'est la Grand Partita de Mozart, Mathieu Petitjean, Martin Lefebvre au bois, Marie-Bé Barrère-Bilotte et Véronique Audard clarinette, Pascal Agoguet et Laurent Bienvenue, corps de basset, le très regretté Franck Lavaugé et l'ami Michel Mugot, basson, et puis Andrea Cesari, Didier Favre, David Pauvert et Bertrand Raquet au corps, et c'est Kazuki Yamada qui dirige. Le final si joyeux de la Grand Partita de Mozart pour refermer ce grand livre de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je dédie cette émission à la mémoire de mon frère qui aura vécu 41 ans sur la Côte d'Azur, dont 35 à Monaco, et à qui les musiciens de cet orchestre ont toujours fait bon accueil. Un très grand merci à Marie Groux et Benjamin Vignal pour leur maestria en matière de réalisation, de prise de son et de mixage. Et à tout bientôt sur France Musique.
France Musique, partenaire du Festival de Toulouse du 28 juin au 11 juillet. Voyagez entre classique, jazz, pop et musique du monde. Avec Marina Viotti, Pierre Demar, Adam Laloum, Didi Bridgewater, l'Orchestre du Capitole et bien d'autres artistes. Le Festival de Toulouse, des créations uniques, des rencontres magiques. À découvrir du 28 juin au 11 juillet, un partenariat France Musique, une chaîne du groupe Radio France.
The next stop is 42nd Street. Come
here, Vinny. 42e rue vous emmène dans la Mecque de la comédie musicale.
42e rue, Laurent Vallière.
Durant deux émissions, je vous raconte les tendances, les musiques à l'affiche, cette saison à Broadway. 15 comédies musicales passées au crible. C'est ce dimanche à midi sur la 42e rue de France Musique et quand vous voulez en podcast.
Musique matin de 7h à 9h. Jean-Baptiste Urbain, France Musique.
Demain, nous recevons Mikko Franck. Le chef finlandais donne cette semaine ses ultimes concerts de directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Alors, comment vit-il ces derniers moments avec la formation parisienne? Et puis, quel regard porte-t-il sur ses 10 ans de compagnonnage? Mikko Franck nous répond, c'est demain et c'est à 8h30.
Musique Matin, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Et voici Priscille Lé.